Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous fêtons ce soir la naissance humaine d'une personne divine. C'est évidemment un grand mystère, un des plus importants de notre religion avec ceux de la Sainte Trinité et de la rédemption. Pour contempler ce mystère ce soir, nous allons emprunter une méthode très utilisée dans l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge. Pour faire le tour d'une question, les grands orateurs et philosophes se posaient cette question. Qui, quoi, comment, par quel moyen, pourquoi, où et quand? Ce sont les sept circonstances qui puissent entourer un événement. D'abord, qui? De qui parlons-nous? De la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu, engendré par le Père depuis toute éternité, égal au Père en tout, et aussi puissant, aussi divin, que lui. Mais cette personne possède aussi une nature humaine. Vrai homme et vrai Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est cette union des deux natures en lui qui le constitue le plus parfait intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le prêtre par excellence, le prêtre par son être même. Il est le pont entre Dieu et l'homme. Maintenant, quoi? De quoi s'agit-il? Il s'agit de la naissance de Jésus. Mais en tant que cette naissance est l'achèvement de sa génération humaine, commencée 9 mois auparavant, le jour de l'Annonciation. Cependant, attention, si nous parlons d'achèvement, il ne faut pas croire que l'humanité de Jésus ait eu besoin de plusieurs mois pour se développer afin d'être jointe ensuite à la divinité. Non, dès que la Sainte Vierge a donné son consentement à l'ange Gabriel, la sainte humanité de Jésus a été créée parfaitement achevée et unie à la divinité à l'instant même. Dieu, depuis toujours, à partir de ce moment, cette personne a commencé à être vrai homme aussi. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. S'incarner signifie prendre chair. Si nous célébrons l'incarnation avec plus de solennité en ce jour, plutôt que le jour de l'Annonciation, le 25 mars, c'est parce que c'est en cette sainte nuit que ce mystère a enfin été rendu visible aux yeux des hommes. Comment? Comment cela s'est-il fait? Ce n'est pas par un changement de la nature divine en la nature humaine, sinon Jésus ne serait pas Dieu. Ce n'est pas non plus à la manière d'un mélange des deux natures, sinon Jésus ne serait ni vrai Dieu ni vrai homme. C'est par mode d'assomption. Une personne divine a assumé la nature humaine. Sans cesser de vivre dans la nature divine, elle commence à vivre aussi dans une nature humaine. Cela n'implique aucun changement pour sa divinité, de même que la création du monde n'a rien changé à Dieu, ne lui a rien ajouté. Il y a de très très beaux textes dans les matines de cette nuit, surtout des sermons de Saint Léon, pape. Je vous cite quelques citations à ce sujet. L'alliance dont il a joint les deux natures est si parfaite que ni l'inférieur n'est anéanti par la glorification, ni la supérieure n'est diminuée par l'assomption. La propriété de l'une et de l'autre substance étant sauve et s'unissant en une seule personne, l'humilité est prise par la majesté, l'infirmité par la puissance, la mortalité par l'éternité. Alors maintenant, par quel moyen? Ce mystère s'accomplit par la toute-puissance divine, qui crée une nature humaine parfaite à partir du sang très pur de l'Immaculée Vierge Marie. C'est pourquoi, même si seul le Verbe de Dieu se fait chair, l'incarnation est quand même l'œuvre de toutes les trois personnes de la Sainte Trinité. Mais comme l'incarnation est surtout un acte d'amour, comme nous le verrons ensuite, cette œuvre est attribuée spécialement au Saint-Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils. Comme il est dit dans l'Évangile de Saint-Luc, l'ange répondit à Marie, « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. » Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? En un mot, c'était pour nous sauver. Alors d'abord, les hommes sont conduits aux vérités invisibles par les choses visibles. En devenant lui-même visible, Dieu a rendu notre salut plus accessible. Nous dirons tout à l'heure dans la préface, en connaissant Dieu visiblement, nous sommes saisis et élevés par lui à l'amour des choses invisibles. Mais surtout, Dieu prend une nature humaine pour accomplir l'œuvre de notre rédemption. Par le péché, l'homme avait fait une offense à la majesté infinie de Dieu. Il fallait donc qu'il fasse une réparation d'une valeur infinie. Cependant, étant une créature avec ses limites, il était bien incapable d'offrir à Dieu une telle réparation. La sagesse de Dieu a trouvé une solution pour satisfaire à la fois à sa justice et à sa miséricorde. Il deviendrait un homme afin de s'offrir lui-même à son Père. Ainsi, un homme reçoit le châtiment au nom de tous les hommes, mais cet homme étant Dieu, son offrande a une valeur infinie. Où cela a-t-il eu lieu? Eh bien, dans une localité définie, en Palestine, la terre d'Israël, cette terre du peuple choisi par Dieu parmi toutes les nations, et plus particulièrement dans le territoire de la tribu de Juda, cette tribu choisie parmi toutes les tribus d'Israël, dans une pauvre grotte près de la ville de Bethléem, ville choisie parmi toutes les villes de Juda. Le Sauveur est donc né nécessairement en un lieu précis, au sein d'un peuple déterminé, d'une mère unique parmi les créatures. Il n'y a pas deux endroits, deux peuples qui peuvent prétendre à cet honneur. Car Dieu a ses choix, ses préférences, et il dispose toutes choses dans sa providence avec une sagesse infinie. Si certains sont plus aimés de Dieu, il ne faut jamais oublier que nous sommes tous aimés d'un amour infini, et tous nous avons les grâces nécessaires pour nous sauver si nous le voulons. Comme le dit saint Augustin, si vous ne voulez pas vous tromper, ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi un tel est un saint alors que tel autre est damné. Alors, septième et dernière question, quand cela s'est-il passé? Dieu ne s'incarne pas avant la chute de l'homme, car il n'y en avait pas besoin. Et il ne fait pas tout de suite après la chute, pour plusieurs raisons. Pour aider l'homme à rester humble en lui faisant faire l'expérience de sa faiblesse pendant des milliers d'années. Pour préparer comme il faut la venue d'un sauveur si digne. Et pour ne pas laisser trop de temps au monde après sa première venue. Mais il n'est pas non plus venu immédiatement avant la fin du monde, pour d'autres raisons. D'abord, on n'attend pas la mort d'un malade pour lui apporter le remède. Aussi, il devait servir comme un exemple visible et une cause de sanctification pour les générations d'hommes. Puis enfin, il fallait une première venue dans la miséricorde pour que tous ne périssent pas lors de sa deuxième venue dans la justice. Donc en conclusion, chers fidèles, prenons le temps pendant les jours qui viennent pour méditer et réfléchir sur ce grand mystère en le décortiquant, en le passant, en le regardant de tous les côtés. Les textes des matines, encore une fois, sont un très bon outil pour cette méditation. Suivons l'exemple de la très sainte Vierge Marie qui a gardé toutes ces choses dans son cœur, comme elle l'a dit elle-même à l'apôtre Saint-Luc, à l'évangéliste Saint-Luc. Surtout, qu'elle nous aide à vivre de façon à répondre à un si grand amour de Dieu à notre égard, qui s'est incarné pour nous sauver. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.